Radio Bonheur, 19h06, les déchaînés du football, le magazine des déchaînés du football. Vous y êtes, vous y restez de 19h à 20h avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Alors on va commencer cette émission de manière un peu extraordinaire ce soir. Oui. On ne va pas parler tout de suite de l'en avant de Guingamp, du moins pas du match de ce week-end et du match nul donc de Guingamp ce week-end 2-2. On le rappelle, à domicile contre le football club de Metz, contre la Lanterne Rouge. Mais on va accueillir tout de suite et par téléphone un ex-UAG, je crois.
Oui, et juste avant de savoir qui c'est, suspense immense, voici la petite introduction en musique.
Marvaux qui est servi, qui redonne ce ballon à l'évêque, centre de l'évêque vers Mandane, tête encore de Palomino, récupération de Matisse, frappe un peu écrasée de Matisse, Jérémy Pied qui arrive, frappe de pied, le deuxième but. We all shine, we are chrome. Dorian l'évêque avec Mandane pour lancer le contre Guingamp, et Mandane dans le rond central, Mandane peut-être pour Beauvue qui est en position de hors-jeu, mais il lance Jérémy Pied, la voie royale pour Pied pour le 2-0, la balle pour Beauvue,
et
2-0. Bon, attention, la sortie de Romain Pinault, Pied qui marque de loin! Quel but de Jérémy Pied de plus de 30 mètres! Le but pour Guingamp! Et on vous le disait que c'était plutôt équilibré ce début de match avec un coup franc pour les Guingampais. Et Jérémy Pied est venu plonger devant Blaise Matuidi pour porter le score à 1-0. Pour les Guingampais qui dessinent peut-être les contours d'un nouvel exploit retentissant. Oui, monsieur Anthony Gauthier qui regarde son chronomètre. C'est fini, c'est fini. Le grand Guingamp a battu le petit Paris ce soir.
Que d'exploits avec notre AG de ce soir, Jérémy Pied.
C'est incroyable. Bonsoir, Jérémy.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
On a l'impression avec ce petit montage-là que vous êtes resté 5 ans à Guingamp, mais non, finalement, vous êtes resté qu'une seule année sous les couleurs rouge et noir. Alors, Jérémy, je voulais vous dire « Hello, how are you ?» en anglais, mais je vais plutôt vous dire « Hola, qué tal ?» parce que vous êtes en Espagne ce soir avec votre club de Southampton.
C'est ça, exactement. C'était prévu pour essayer d'avoir un peu des conditions un peu plus chaudes, de meilleure température. Donc on est descendu dans le sud de l'Espagne pour s'entraîner quelques jours avant de repartir en Angleterre.
Alors on est avec vous là sur la première demi-heure de l'émission parce que juste après vous allez rejoindre votre équipe pour le dîner ce soir en Espagne. Justement, comment ça se passe à Southampton? On se souvient que l'an passé vous aviez été gravement blessé, malheureusement, dès que vous êtes arrivé. Est-ce que vous avez un petit peu plus joué cette saison?
Un petit peu plus, oui, parce que l'année dernière, j'ai fait un match et demi, donc cette année j'ai fait un peu plus, mais c'est pas encore ce que j'espère depuis que je suis arrivé ici. Bon, c'est vrai que cette blessure, elle m'a quand même fait mal l'année dernière. J'ai réussi à m'en remettre, cette année je me sens beaucoup mieux. Et puis maintenant, bah écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me bats chaque jour de la semaine pour avoir du temps de jeu le week-end. Mais bon. Encore une fois, bon, j'espère bien évidemment à jouer plus qu'actuellement.
Alors, jouer arrière droit ou milieu droit? Parce que c'est vrai que nous, on vous avait connu milieu offensif droit à Guingamp. Vous avez fait une superbe saison l'année d'après à Nice en tant qu'arrière droit. Quel est votre poste aujourd'hui à Southampton quand vous jouez?
Arrière droit. Arrière droit et si besoin, couloir gauche, pas forcément titulaire. Et si jamais il y a un blessé ou voilà, pendant le match, s'il y a besoin de rentrer, je peux jouer soit à droite, soit à gauche.
Alors, on va revenir, Jérémy, sur vos années à Guingamp, enfin sur vos mois à Guingamp, sur votre année passée à en avant. Vous arrivez le 25 août 2014, donc pas loin de la fin du mercato, lors de la saison 2014-2015. Vous aviez joué deux bouts de match avec Nice un petit peu plus tôt dans la saison. Qu'est-ce qui avait fait que vous étiez arrivé à Guingamp au cours du mois d'août?
Pourquoi aussi tard, vous voulez dire?
Oui, pourquoi aussi tard et pourquoi Guingamp?
D'abord, j'ai eu plusieurs. Pourquoi Guingamp? Ça, c'est grâce au discours de Jocelyn Gourvennec, notre entraîneur à l'époque, qui a réussi à me convaincre assez facilement. Mais c'est vrai qu'au début, pendant la pré-saison avec Nice, ça s'était plutôt bien passé. En fin de pré-saison, avec de bons matchs amicaux. Puis après, j'ai réussi à commencer la saison en tant que titulaire. Mais j'ai quand même eu un discours du côté de l'OGC Nice où on faisait clairement comprendre que j'étais pas 100% indiscutable pour l'équipe. Donc après réflexion, j'ai décidé de rejoindre l'an d'avant Guingamp, alors que le championnat avait déjà commencé. Mais voilà, bah ça avait plutôt bien commencé avec une victoire contre Bordeaux à l'époque, si je me rappelle bien. Mmh. Et par la suite, bah la saison que vous savez. Donc ça a été plutôt un bon choix pour moi de partir en prêt cette année-là du côté de Guingamp.
Et cette saison en plus pour vous, elle est à l'image de l'équipe un peu divisée en deux parties. Il y a un début moyen, où en Coupe d'Europe ça marchait bien, le championnat c'était plus compliqué. On se souvient que fin novembre vous êtes dernier de Ligue 1, et puis il y a un tournant au mois de décembre pour vous et pour le club, parce que vous n'êtes pas titulaire au début du mois de décembre. Il y a la victoire contre Caen, vous faites votre première passe décisive, la victoire 5-1. Au PAOK, vous n'êtes pas titulaire, mais vous entrez à la mi-temps et Guingamp se qualifie. Puis trois jours après, il y a ce match contre Paris. Que s'est-il passé à cette époque, individuellement et collectivement, pour que ça se passe mieux pour le club?
Mais je pense que collectivement, comme pour moi, ça a été plus une course de fond qu'un sprint dès le départ. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé au club, il y a eu, je crois, 4 mauvais résultats, quelque chose comme ça. Donc c'était déjà difficile de redresser la barre rapidement avec des joueurs qui perdaient un petit peu confiance. Et puis après, en mélangeant les coupes, on faisait pas un mauvais début de saison, mais seulement on gagnait en coupe, on passait à chaque fois, mais en championnat on grattait pas les points, donc on était plutôt mal. Mais à partir de décembre, je pense que le match c'est contre Caen, hein, où ça se passe, où on gagne 5-1, la confiance elle vient. Et puis après, qualification en Coupe d'Europe, victoire contre Paris, alors qu'on rentre deux jours après, ça a été un miracle. Mais bon, après, la confiance est venue naturellement. Je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression que chacun sur le terrain se sentait pousser des ailes avec des repositionnements. Je pense notamment à Claudio qui est passé, à Claudio Beauvu qui s'est retrouvé à Vincent, qui dit mais je sais plus combien de pions dans l'année. Donc tout cet ensemble a fait que l'équipe tournait bien, tout simplement.
Alors vous en avez parlé, il y a ce match contre Paris et ce but que vous marquez après 10 minutes sur un coup franc. Qu'est-ce qu'il en reste 3 ans après de ce but-là, Jérémy Thier?
C'est inoubliable, pour moi c'est inoubliable. Et puis là je viens d'entendre, je vous en remercie, le petit clip vidéo
c'est nous qui vous remercie.
Quelques frissons. Mais ce match-là, oui, moi je mets le but, mais c'est pas que ça. Je me rappelle d'un Kerbrat derrière qui arrêtait tout. Je me rappelle de Jonas qui sort l'arrêt sur Zlatan à la fin du match. Je sais plus, il y a une main, je crois, de Baron Lévesque, mais pas sifflé, un peu de chance pour nous. Donc, tout ça a été fait pour que. C'était notre soir. C'est difficile à expliquer vu qu'on avait beaucoup de fatigue.
J'allais y venir, Jérémy, parce que Gourvennec nous avait dit après ce match qu'il ne savait pas comment vous aviez fait pour sortir ce match-là contre Paris, alors que 3 jours avant, et encore on dit 3 jours, on est gentil, parce que le match à Salonique il est à 21h, vous jouez contre Paris 3 jours après, mais le match est à 17h, donc c'est même pas 3 jours exactement après. Et vous, est-ce que vous savez comment vous avez fait pour sortir ce match-là?
Je sais pas, c'est la magie de Guingamp, je sais pas, on a été poussé, mais peut-être on a joué vraiment libéré en se disant que. Mais je me rappelle quand même avoir qu'on avait vraiment mis en place quelque chose, hein, par rapport à ce match. On l'a pas joué perdu d'avance.
Mais c'est vrai qu'à un moment donné,
quel était ce plan? Non, c'était plus. Je me rappelle pas, mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle qu'on l'ait préparé vraiment comme un match. On s'est pas dit que c'était Paris, donc c'était match perdu d'avance, etc. On avait vraiment planifié tout ce qu'on pouvait faire dans le match. Mais je me rappelle aussi qu'on a une action de Cavani qui tente le lob au bout de 3 minutes. Voilà, je pense que s'il marque là, ça aurait été vraiment difficile pour nous. Mais bon, c'était notre jour. Et voilà, on a pris tout le positif. Après, le stade qui pousse, toutes les petites actions, tous les petits détails en notre faveur. Et à la fin, avec la confiance et la solidarité, on a réussi à bousculer la montagne ce jour-là.
Alors, Jérémy Thier, lorsque on avait fait le bilan de la saison en 2015 avec vous, on vous avait demandé quel était votre meilleur moment et vous ne nous aviez pas dit le match contre Paris, vous nous aviez dit un autre match. Est-ce que 3 ans après, vous vous souvenez encore de ce que vous nous aviez dit?
Moi, je dirais le match contre Kiev, alors.
Exactement.
J'avais dû dire que Paris était exceptionnel, mais que celui avec le plus d'émotions, ça devait certainement être celui contre Kiev.
Pourquoi?
Parce que c'est pareil, c'est... c'est des soirs où on peut pas imaginer que tout se passe comme ça avant le match. Je veux dire, c'est quand même Dynamo Kiev, pour les connaisseurs, c'est quand même une équipe qui doit jouer régulièrement la Champions League, qui avait des joueurs, de super joueurs, qui avaient le niveau, en tout cas Champions League, à l'époque où on les a joués. Et on perdait 1-0, il y a eu les cartons rouges, deux cartons rouges pour eux. On galère à revenir parce que forcément ils se mettent tous derrière à attendre leur résultat vu qu'ils avaient ouvert le score. Et puis là, on sait pas pourquoi, encore une fois, Claudio Beauvue avec sa confiance, il nous met, il égalise, et puis après, après ça part, hein, ça part, et on réussit à mettre le deuxième but sur corner par Mousse Diallo.
Un corner de Jérémy Pied.
Ouais, mais j'ai vu d'ailleurs, Pierre-Henri, la dernière fois que tu l'as remis sur les réseaux, cette vidéo avec les commentaires, pareil, les commentaires radio. Mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que quand on est sur le terrain, on se rend pas compte. On est romain, on est content, on veut aller prendre la balle parce qu'on savait à l'époque qu'il nous fallait un but de plus pour être plus, avoir un plus de confort au match retour. Mais quand on revoit ça, mais je pense qu'on heureusement qu'on a encore les images, voilà, et le son pour se rendre compte que de l'exploit de l'époque. Parce qu'il faut surtout pas minimiser ça. C'est un exploit d'avoir battu le Dynamo Kiev et d'avoir été vraiment très proche de les éliminer.
C'est vrai, parce que 3 ans après, ce qu'on retient surtout, c'est le fait déjà que, en tant que suiveur de Guingamp, on s'attendait pas à ce que Guingamp passe les poules. Et encore moins à ce que Guingamp gagne un match aller comme voilà. Ça contre Kiev. Et du coup, 3 ans après, il n'y a plus forcément, alors chez certains supporters peut-être, mais ce goût d'inachevé après le match retour que vous perdez pour un but, en fait, parce que vous êtes éliminé pour un but dans cette confrontation.
Moi, personnellement, après ce match, j'ai bien dormi. Je sais qu'on a tout donné. Et bien évidemment, on était déçus de pas aller au tour suivant parce que c'est normal, on veut passer. Mais aucun souci de par rapport à l'engagement qu'on a mis dans ces matchs, tout ce qu'on a donné, c'était extraordinaire. Et puis surtout, comme j'ai pu le dire aussi une fois, on m'a dit voilà, vous êtes fait éliminer, etc. Mais en tout cas, moi, je préfère avoir été sur le terrain, avoir eu ma chance, d'avoir eu une chance de se qualifier, que d'être resté à la maison ou de regarder le match à la télé. En tout cas, on y était, on a joué un super match dans leur stade, je sais plus quel stade c'était, le stade
olympique de Kiev.
National, ouais, le stade olympique. Ouais. C'était magique, ils avaient fait les places gratuites, je crois, parce que c'était leur début de saison, donc le stade quasiment rempli pour jouer contre l'en avant Guingamp. C'était pas le match de l'année pour eux, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire et on les a mis en difficulté, on les a fait douter. Voilà, hein. Qu'est-ce que je me rappelle qu'ils doivent prendre un carton rouge au bout de 3 minutes qui peut tout changer aussi. Mais bon, sur l'ensemble des deux matchs, je pense que cette année-là, on les a vraiment mis en difficulté et ils le savent.
Eh bien, Jérémy, vous restez avec nous quelques petites secondes encore. On passe juste une pause de réclame et on revient pour la fin de l'interview et après on vous laissera aller dîner avec vos coéquipiers.
Avec plaisir.
Tout de suite.
Radio Bonheur, la radio des footballeurs.
Il y a toujours un mec quand tu lui dis « Eh, tu savais qu'en février, chez Red, ils font la fibre à 15€ par mois ?» Il te répond
« Ouais, moi, je suis au ski. »
Ah ouais, il est au ski. Et qu'est-ce qu'il va faire au ski avec 15€ ? Un cours de 15 minutes ? Louer un seul ski ? Un bâton ? Juste une chaussure ? Alors que toi, t'as chopé la fibre pour 15€ par mois à un prix qui double pas au bout d'un an ? C'est le bon plan de rester surfer chez soi ! Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. En ce moment, la fibre, c'est 15€ par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients jusqu'au 5 mars. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49€, détails sur redbysfr.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais.
Allô patron ?
Mais chez Lidl ?
Oh oui, et là ils mettent l'accent sur la mâche. Hein. Aujourd'hui et demain, la barquette de 150 grammes de mâche à grande feuille est à 99 centimes.
Quoi ? 99 centimes la barquette de mâche à grande feuille ? Moins d'1€ ? Là je me fâche, hein !
Ah oui, mais c'est le vrai prix, hein ! Et je mets l'accent sur l'origine France, hein ! Bien sûr !
C'est ça, ouais, continue à mettre l'accent. Ah, on est mal, hein ?
Ah oui, très mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Retrouvez-nous au Salon International de l'Agriculture jusqu'au 4 mars. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,60€ le kilo, origine France.
Robin a 10 ans. Il en a connu des choses en 10 ans. Des copains, des copines, des coupes du monde, plusieurs coupes de cheveux aussi. Il a connu les vacances à la mer, le ski et le plâtre. Oui, il a connu bien des choses, Robin, depuis qu'il est né. Mais en 10 ans, une banque moins chère que Boursorama Banque ? Jamais. Boursorama Banque, classée banque la moins chère pour la 10e année consécutive. Et toujours 80 euros offerts pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire.
Détails de l'offre et des études tarifaires sur boursorama-banque.com, source Le Monde, meilleurbanque.com, février 2018.
Après la fermeture, dans une agence, Profil Plus.
Alors ce matin, le fils de Madame Michel est passé pour remplacer ses pneus. Il s'agit d'une voiture pas récente qui roule quand même tous les jours. On est sur un budget serré. Fallait que je lui trouve un bon pneu au bon prix. Je lui ai proposé du BF Goodrich.
Bravo, super.
Excellent. Marque sélection de Profil Plus.
Merci. Et en plus, j'ai pu lui faire profiter d'une carte cadeau de 30 euros.
Jusqu'au 18 mars chez Profil Plus, achetez des pneus BF Goodrich et recevez jusqu'à 30 euros en carte cadeau illy cadeau. Rendez-vous en agence ou sur profilplus.fr.
Profil Plus.
Profil Plus, demandez plus à vos pneus.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, après Noël, la Saint-Valentin et maintenant le ski, on se dit que vu le budget pour la suite, il va falloir faire des économies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On active notre radar à bonnes affaires.
Ne cherchez pas plus loin. Jusqu'au 26 février, pendant les Happy Box Days de SFR, la box starter est à seulement 4,99€ par mois pendant 12 mois, puis 34,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux 25 000 premiers clients. Engagement 12 mois, location box offerte, frais d'ouverture de service 49€.
Leclerc.
Bonjour ma Juju.
Salut papa.
En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, pour une bouteille de Tropicana Pure Premium Orange pressée, achetée, une offerte. C'est dans le frigo.
Cool, des vitamines en promo.
Et ouais.
Du 27 février au 3 mars, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour une bouteille d'un litre de Tropicana Pure Premium achetée, plusieurs variétés au choix transformées en Belgique, la deuxième est offerte. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
Pour votre santé, bougez plus.
Oh, excusez-moi, je me suis trompé d'appartement.
Mais non, chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'est chez nous, reviens.
Ouah, c'est chez nous, ça. Mais c'est super, t'as refait toute la déco?
Non, j'ai simplement ajouté deux nouveaux coussins, une lampe et changé le tapis.
Ah ouais.
Il suffit parfois d'un rien pour tout changer. Découvrez vite toutes nos nouveautés de printemps à petit prix dans votre magasin IKEA. Avec par exemple la housse de coussins multicolores Sommar 2018 à 4,99€. IKEA.
Radio Bonheur, les déchaînés du football à 19h23 avec notre invité ex-AG ce soir, Jérémy Pied.
Oui, on va faire vite avant de libérer Jérémy pour aller avec ses coéquipiers. Jérémy, quelle est l'anecdote que vous n'avez encore jamais racontée sur votre année guingampaise?
Oh là 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 là. L'anecdote. Non, je sais pas. Quelle anecdote?
Il y a bien une petite bêtise de fête, peut-être, non?
Non, je sais pas, après une anecdote en particulier, je sais pas, mais il y a un truc qui m'a marqué, pas pour moi, mais qui a été marquant pour moi, et j'en rigole souvent, c'est avec l'audio Beauvue, c'est qu'avant le match contre le POG, justement, on rigolait ensemble, et puis voilà, parce qu'on savait que ça allait être très difficile, c'était à la Tumba, le stade, c'était la folie, et puis on avait vraiment rien, on avait vraiment tout contre nous ce jour-là, et avant le match, il m'a dit, t'inquiète, aujourd'hui je m'ai doublé. Et à la fin du match, il m'est doublé et on se qualifie. Et ça, ça m'a marqué. C'est une des choses qui m'ont marqué lors de mon passage du côté de Guingamp qui était oui. Marrante et puis qui s'est bien terminée surtout, quoi.
Là, il est fort. Ben, on le savait pas, Jérémy. Et la prochaine fois qu'on aura Claudio au téléphone, on lui parlera de ça parce qu'il ne l'avait pas dit il y a quelques semaines. Jérémy, est-ce que vous auriez pu rester au club après votre prêt à Guingamp?
Oui, j'aurais pu rester, bien sûr.
Et pourquoi ça s'est pas fait?
Ça s'est pas fait parce que moi, dans mon esprit, c'était de retourner sur Nice et de voir ce qui se passait un petit peu, entre guillemets, de voir ce qui se passait, le fait de retourner, dernière année de contrat et l'équipe qui se mettait en place. Ensuite, par la suite, on m'a fait comprendre que le système mis en place, il n'y avait pas d'ailier, en fait, on jouait en 4-4-2 en losange. Donc à partir de là, certaines discussions se sont réouvertes. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de blessures pour nous. Je crois que c'était la troisième journée de championnat, quelque chose comme ça. Et c'est là où j'ai joué arrière-droit, ça s'est bien passé. Et après, j'ai continué jusqu'à la fin de saison. Donc entre-temps, il y a eu une possibilité. Les discours par téléphone, il y avait des contacts. Mais à partir du moment où je me suis mis à jouer... et que ça s'est bien passé dans ce repositionnement, j'ai pris la décision de terminer ma dernière année de contrat avec l'OGC Nice.
Oui, eh bien écoutez, on verra peut-être ce que l'avenir nous réserve, Jérémy, parce que il y a des joueurs parfois qui sont partis en Angleterre et qui sont revenus après en France, et pourquoi pas à Guingamp. On verra. Jérémy, on va terminer cette interview par l'éternel quiz ex-EAG. On rappelle, une minute de questions, plus ou moins sérieuses, ne vous inquiétez pas, faut pas trop réfléchir, Jérémy, sur votre année, oui, ce qui vous lie avec l'en avant de Guingamp. On rappelle, le record, c'est 11 points à battre, il a été battu par Yannick Barret. Le deuxième, c'est notre Ladislas Dunyama National qui a 10 points. Jérémy, êtes-vous prêt?
Oui.
C'est parti, top départ. Combien de buts avez-vous marqué avec Guingamp?
4.
Bonne réponse. Contre qui à part Paris?
Contre Metz, contre Dinan et contre Isère.
Bonne réponse. Quel numéro de maillot portiez-vous?
23.
Qui a pris ce numéro après vous?
Jimmy Briand.
Qui le porte aujourd'hui?
Aucune idée.
C'était Jimmy Briand. Qui tire le coup franc de votre but contre Paris?
Giresse.
Bonne réponse. Vrai ou faux, vous vouliez faire en fait une passe de la tête plutôt qu'un tir?
Faux.
Faux, bonne réponse. Après ce but, vous avez entendu 152 fois. Eh, t'as vu, pied, il a marqué de la tête?
Oui.
Ah, c'était 152 exactement. Bah, très bien, bonne réponse. Citez un joueur actuel de Guingamp qui, comme vous, a joué à Lyon.
Clément Grenier.
Bonne réponse. Citez un joueur actuel de Guingamp qui, comme vous, a joué à Metz.
Aucun.
Yenine Bakoto, citez un joueur actuel de Guingamp qui a joué à Southampton.
De Guingamp qui a joué à Southampton aujourd'hui.
Il y en a pas. Donc bonne réponse, je vous mets un point quand même. Vrai ou faux, vous aviez fait exprès de tirer sur la barre au tir au but avec Nice l'année où vous revenez à Guingamp?
Non.
Ah, et dernière question, quel Guingampais avait manqué lamentablement son penalty dans cette séance de tir au but?
Quel Guingampais
avait lamentablement, je dis bien lamentablement, manqué son tir au but ce jour-là?
Je sais plus du tout. Dans l'évêque, je sais plus.
C'était Jonas Lossel, le gardien de Guingamp. Alors, Jérémy Pied, c'est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses. Vous êtes tout près. Vous devez être même sur le podium, Jérémy Pied, des participants au quiz ex-EAG. Merci infiniment d'avoir trouvé le temps de nous répondre, Jérémy.
Avec grand
bonne
plaisir.
Bonne suite toujours. De saison à Southampton.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et je vous dis à très bientôt, de toute façon.
À bientôt. Merci.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Bonsoir. Merci.
Les déchaînés du football, 19h30. Pierre, eh bien, on va continuer avec ce qu'on fait habituellement en début d'émission à 19h, c'est-à-dire qu'on va parler de l'en avant de Guingamp
et de l'actualité,
de ce qui s'est passé ce week-end pour Guingamp en difficulté contre la Lanterne Rouge, contre Metz. Alors pas dans le jeu, c'est vrai qu'on a vu un bon Guingamp, surtout en première période, mais Guingamp n'a pas gagné et c'est ce qu'on regrette le plus.
Ben c'est ça ce qui est incroyable, et c'est ce qu'on disait dans la rubrique ce matin, les résultats se suivent mais les matchs ne se ressemblent pas. Du côté de Guingamp, troisième match nul consécutif, mais là il y avait du jeu, des occasions pour Guingamp, 17 tirs, 8 cadrés, ce sont des stats normalement d'une équipe qui gagne un match, surtout que Metz n'a cadré que deux fois. Mais voilà, il y a eu quelques petits errements défensifs, assez rares mais trop importants, et puis des occasions assez nombreuses qui n'ont malheureusement pas été transformées, avec surtout un héros inattendu du côté de Guingamp, auteur d'un doublé. On réécoute tout ça dans le résumé de ce Guingamp-Metz. Bien récupéré, en tout cas, on peut le penser avec ce débordement de Dosevi dans la surface centre de Dosevi vers Nolan Roux, deuxième poteau, super contrôle de Roux. Ballon retrait pour Milicevic, centre contré, un pénalty pour Metz, je ne suis pas d'accord. Ah non, c'est sévère.
C'est le bras,
il a le coude. Ah ouais. Non, il a le coude et le coude est collé au corps. Pour moi, c'est pas pénalty. Alors après, c'est toujours l'appréciation. Pour moi, c'était pas pénalty, mais il le tire avec mollet. Oh, but. Ouh, Jonsson l'avait touché, malheureux, mais ça fait poteau rentrant. Ouh, je pense qu'on va marquer ce soir. Salut, voilà pour Dodo. Et voilà! Et voilà l'égalisation sur un geste de génie de Yanis Salibur qui est venu mettre le ballon avec une sorte de retournée acrobatique par-dessus la défense, s'il vous plaît, pour Lucado qui a mené ce surnombre dans la surface de réparation.
sur Lucado qui a ajusté Kawashima pour permettre à Guingamp d'égaliser. Tout ce qu'il manquait à Guingamp, on l'a vu sur ce but. Du mouvement, de l'audace, de l'idée, de la justesse, un partout. Corner frappé par Dosevi, ça part bien tête, un but incroyable. Incroyable, c'est Nolan Roux qui vient marquer de la tête. Deux tirs cadrés, deux buts. Les bras m'en tombent. Incroyable, Clément Grenier pour le corner Guingamp. Il faut marquer le plus vite possible pour se remettre dedans du côté de Guingamp. Grenier, c'est parti, tête au-dessus. Oh, Yenin Bakoto qui était au deuxième poteau. Et c'est presque un symbole ce qui vient de se passer. Tête matchée encore de Nbakoto. Sauf qu'avec le rebond, eh ben ça passe juste au-dessus. Par un Messin, Rebocho qui récupère, Rebocho à gauche pour Benesse qui n'est pas en position de hors-jeu. Benesse qui va travailler un centre du pied gauche. Oh, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge avec Salibur. Oh, qui manque, go! Oui, oui, Lucado! Lucado pour Lens! Le doublé de Lucado, on l'avait dit, il faut marquer maintenant pour enflammer ce match. C'est fait, Lucado, héros incroyable de ce match, héros inattendu, doublé pour Lucado, deux buts partout, il reste 3-4 minutes dans le temps réglementaire. Et là, pardonnez-moi l'expression, mais faut tout faire péter dans cette fin de match, de partout.
Malheureusement, ça ne pètera pas. Ça en restera là et on en restera à deux buts partout.
Oui, il y a eu l'occasion pourtant. Parce qu'on on le dit toujours, il en reste une. Il y en a eu une avec Benezet, mais ça a été contré et c'était passé à côté. C'est vrai que... Alors, on est un peu partagé après ce match parce que c'est encore une occasion de manquer de Guingamp pour eh bien s'installer un peu plus haut dans le classement. C'est pas normal de ne pas gagner à domicile contre Metz, ça fait trop de points perdus contre des équipes de deuxième partie de tableau à domicile. Et on y reviendra cette semaine parce que le parcours aujourd'hui à domicile, en tout cas cette saison, n'est pas suffisant de la part des Guingampais. C'est le 12e classement de, ils sont 12e à domicile les Guingampais en Ligue 1. Il y a plus de nuls que de victoires, 5 victoires, 6 nuls, 3 défaites. C'est toujours aussi dur de prendre des points à Roudourou, mais ça devient dur aussi pour Guingamp maintenant d'en prendre parce que bah, y a beaucoup de matchs nuls pour les Guingampais et voilà pourquoi en avant pioche un peu, plafonne dans ce championnat de Ligue 1 parce que à l'extérieur, force est de constater que c'est beaucoup moins catastrophique que l'an passé pour l'équipe d'Antoine Comboiré. Et donc on disait qu'on était partagé parce que d'autre part, eh ben, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était plus auto-coupé pendant le commentaire parce qu'il y avait des actions de part et d'autre, c'était vivant. Voilà, il y avait deux équipes qui voulaient jouer. Alors des défenses peut-être un peu poreuses, mais voilà, on a vu des équipes qui se sont procurées des occasions. On voulait insister là-dessus avec les Guingampais, insister sur ce qui a été de positif, mais écoutez Christophe Carbrat, ça ne le satisfaisait pas.
Ouais, mais un match, je sais pas, on a quand on fait deux partout chez nous contre le dernier, c'est forcément un mauvais résultat. On voulait l'emporter. On n'avait pas remporté un match de championnat cette année encore à domicile. On voulait l'emporter et voilà, c'est pas le cas ce soir. Donc c'est une déception, mais en même temps, on est revenu deux fois au score. Donc voilà, qu'on ait pris un point, c'est le point positif.
Ouais, c'était le minimum hein, en même temps contre Metz.
C'est ça.
Et puis c'est vrai que il a une petite pensée Carbrat pour les supporters. Pas de victoire à domicile pour les supporters guingampais depuis le début de l'année 2018.
Ouais, il y en a une en Coupe de France, c'était contre Niort, mais oui, en Ligue 1, c'est inquiétant effectivement. Défaite contre Lyon, défaite contre Nantes, match nul contre Caen, match nul contre Metz, deux buts inscrits en quatre matchs. C'est pas assez pour les Guingampais, surtout quand on voit le calendrier. Caen et Metz, ça devrait être 3 points pour Guingamp sur le papier. Après, on sait que le football, il n'y a jamais rien d'écrit. Mais voilà, c'est dommage. Et surtout là, Guingamp qui s'est tiré un petit peu une balle dans le pied lui-même à cause de ses entames, surtout l'entame de la première période qui n'a pas été bonne. Guingamp était mené 1-0 logiquement. Guingamp a pris un but aussi en début de seconde par Nolan Roux, mais Guingamp avait eu deux occasions avant pour prendre l'avantage. Et Antoine Comboiré revient sur ses débuts de période presque catastrophique de son équipe.
Ben on va, je vais pouvoir regarder le match tranquillement ce soir et puis faire une analyse surtout à froid, mais ben dans les duels on n'est pas présent, on perd les premiers duels, on perd les deuxièmes duels, donc à chaque fois donc vous êtes sur le reculoir et derrière donc ben vous avez un penalty contre nous et un corner. Mais c'est fort logiquement parce que c'est eux qui ont entamé donc les demi-temps donc à fond, ils ont poussé à la faute et derrière ils ont logiquement marqué.
Ouais, j'ai été surpris par la réaction d'Antoine. Moi, je pensais qu'il allait être un peu plus déçu que ça. Et puis, bah, finalement. Mais la pilule passe.
Au final, il a dit deux choses. Alors c'est vrai qu'avec nous, il a dit qu'il était d'abord satisfait. Ça nous a étonné.
Oui.
Il était satisfait du fait que Guingamp s'est révolté pour revenir deux fois, parce que c'est quand même pas facile de revenir deux fois dans un même match. Mais après, il l'a dit. Je crois qu'on l'a entendu dans la rubrique tout à l'heure. Il a pas été satisfait parce que le plus important au football, c'est de marquer des buts et de pas en prendre, voilà. Et j'ai l'impression qu'on, je crois qu'on a dit ça la semaine dernière, Dominique. On a dit Guingamp avait résolu un problème, c'était la défense. Il fallait maintenant résoudre l'attaque. Mais c'est pas parce que on allait avoir plus d'occasions qu'on allait prendre moins de buts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Guingamp a eu plus d'occasions, a plus marqué, mais a pris des buts aussi contre Metz. C'est là toute la difficulté du football. Alors il y a eu beaucoup plus d'occasions, mais écoutez, Nicolas Benezet, un joueur offensif, entré en cours de jeu, pour lui avoir des occasions c'est bien, mais ce n'était pas encore suffisant.
Ouais, dans les occasions, mais je pense que dans le jeu on peut mieux faire. On n'a pas été cohérent, je pense, dans la transition entre les défenseurs et les milieux offensifs, donc c'est dommage. Et on prend deux buts, quoi. Donc ça fait chier aussi. Et c'est Lucas Daud qui met un doublé, quoi. Voilà, ça aussi, il va falloir qu'on se remette en question, nous les offensifs. Tant mieux qu'il ait mis ce doublé, mais on aurait pu faire mieux, nous.
Ça, c'est inquiétant que ce soit Lucas qui marque les deux buts.
Je sais pas, c'est inquiétant, mais c'est vrai que ça fait preuve que voilà, devant on est en peine en ce moment et qu'il va falloir régler le tir.
Ouais, ça faisait partie des surprises de ce match. C'est Lucas Daud qui marque les deux buts pour Guingamp.
Premier doublé en carrière en Ligue 1 pour Lucas Daud, et surtout ce qui est inquiétant, c'est que c'est le premier doublé d'un joueur guingampais cette saison en Ligue 1. Et quand on regarde les statistiques des joueurs offensifs aujourd'hui, Thuram a marqué deux. Alors simplement en Ligue 1, Thuram 2 buts, Briand 6, Salibur 3, Benezet 2, Blas 1, Coco 2 je crois, Grenier 0, mais Grenier vient d'arriver, Diallo 4. Alors on disait quand Diallo marquait beaucoup de buts que c'était pas forcément inquiétant parce que Diallo allait souvent dans la surface, c'était presque un attaquant lorsque Guingamp jouait avec ce schéma-là, avec Diallo qui allait plus haut. Mais là, aujourd'hui, samedi, le fait que ce soit Daud qui marque, ça montre d'une part, il est allé chercher ses buts, mais c'est aussi inquiétant parce que les joueurs offensifs aujourd'hui ne marquent pas assez et sont peut-être pas assez méchants. Mais ça, c'est pas un problème qui date d'hier ou d'avant-hier.
Ça fait des années.
Depuis le départ de Beauvue. Mais après, vous savez, j'entends beaucoup qu'il manque un buteur du côté de Guingamp. Là, samedi, pour une fois, je peux le dire, oui, il manquait un buteur. Mais souvent, ce qui manque à Guingamp, ce sont des occasions. Parce que parfois, Guingamp gagne des matchs en ayant deux occasions. Et regardez à Montpellier, la semaine dernière, Guingamp marque un but alors qu'il a deux occasions dans le match. Mais oui, c'est un problème général. Et c'est le problème de ce Guingamp qui a beaucoup de joueurs capables de marquer, mais pas beaucoup de joueurs, effectivement, capables de marquer 12-15 buts dans la saison. Briand l'a fait l'année dernière, mais voilà, c'est un problème. Peut-être qu'au Mercato, il faudra remédier à ça. On verra, mais là, Guingamp doit faire avec ce qu'il a. Et c'est aux joueurs offensifs, comme Benezet disait, d'en faire un peu plus parce que, Guingamp a encore une fois patiné à domicile, a encore une fois laissé passer une chance de grimper au classement. Mais encore une fois, ça s'est regardé devant, à part Rennes, personne n'a gagné devant. Donc on se retrouve avec exactement la même situation qu'avant le match, c'est-à-dire que Guingamp, 10e, est à 4 points de la 5e place de ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, c'est encore une fois
presque
un coup pour rien.
Ça se resserre, surtout avec le décrochage de Nantes depuis le début de l'année, ça devient très serré.
Ça
devient très serré pour la 5e et 6e place.
Le problème, c'est que effectivement, le calendrier va devenir de plus en plus corsé pour Guingamp, parce qu'il y aura notamment encore Monaco, Marseille, Paris à jouer pour les Guingampais. On se souvient quand même qu'en 2002-2003, Guingamp était 13e à 10 journées de la fin, il avait tapé tous les gros à la fin, donc on ne sait pas trop si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, Guingamp n'a pas encore montré qu'il était capable de franchir ce nouveau palier. Et Nicolas Benezet, on est un petit peu embêté.
J'avais la réponse, je te l'aurais dite, mais c'est vrai qu'on a du mal. À chaque fois, on se dit c'est le moment, c'est ce match. Là, c'était le match, on est à la maison, on joue contre le dernier. Si on n'arrive pas à gagner contre le dernier, je ne vois pas comment on peut prétendre à être plus haut que la 10e place.
Angers, hein, la prochaine fois, le prochain match des Guingampais, déplacement à Angers. Angers qui a gagné en plus à Lille le week-end dernier et qui est sorti de la zone de relégation.
Ouais, mais Guingamp est meilleur à l'extérieur en ce moment. Donc écoutez, ça promet en tout cas un match ouvert. Voilà, et encore une possibilité pour Guingamp Alors souvent, Benezet dit ça, on se dit c'est le moment, c'est le match. Bah peut-être là contre Angers, on va se dire bon ça va être compliqué. Bah c'est peut-être là que Guingamp eh bien va montrer qu'il a mûri. Donc voilà, on a déjà d'être
très
à ce match.
Aussi, hein, depuis.
Oui, mais bon, beaucoup d'équipes sont irrégulières dans ce championnat, mais celles qui sont un peu moins irrégulières sont un peu plus haut et les autres sont un peu plus bas. Angers effectivement qui a gagné à Lille ce week-end et qui est 17e du classement. On conclut la partie sur ce Guingamp-Metz avec cet incident entre Antoine Comboiré et Frédéric Hans.
Ah, c'est le deuxième hein, en deux matchs.
Ouais. Antoine Comboiré qui est venu parler à l'arbitre après un carton jaune pour Jordani Coco à 10 minutes de la fin. Frédéric Hans qui est allé le voir. Selon Comboiré, il lui a dit de retourner dans sa zone. Ce à quoi Comboiré lui a répondu que ce n'était pas le cinquième arbitre. Les deux hommes ont voulu s'expliquer. Comboiré a appelé Hans à s'expliquer dans le tunnel des vestiaires après le match. Bertrand Desplat a essayé d'intervenir, il n'y est pas franchement parvenu. Hans en plus est reparti saluer ses joueurs. L'explication a eu lieu dans le vestiaire de Metz. C'est en tout cas ce qu'on nous a dit samedi soir après le match. Comboiré attendait Hans dans le vestiaire ou à côté du vestiaire de Metz. Ils se sont expliqués et voici ce que Comboiré nous a dit après cet incident.
Oh, bon, je vais le dire parce que j'aime pas, donc là pour la première fois, c'est simplement j'étais en train de discuter avec l'arbitre sur une faute, mais tranquillement, donc à lui dire, d'ailleurs ça s'est bien passé avec le quatrième arbitre, et monsieur Hans est venu me voir pour me dire d'aller dans ma zone. Donc, et comme j'ai horreur, donc quand vient en plus s'adresser à moi donc de cette façon-là, je lui ai fait comprendre qu'il n'est pas cinquième arbitre et puis surtout qu'il reste à sa place, quoi. Voilà. Mais bon, ça y est, on s'est expliqué en fin de match et tout est rentré dans l'ordre.
Il y a eu des mots quand même, hein.
Ah, mais moi, je suis quelqu'un de très respectueux, mais je suis respectueux avec les gens respectueux, quoi. Avec les ânes, de temps en temps, c'est bien de leur tirer les oreilles. Voilà, merci.
Et il est parti comme ça, Antoine.
Et il est parti comme ça, alors qu'on voulait lui poser d'autres questions, notamment sur la contre-performance sportive de Guingamp. Mais en plus, on était dans le noir après la coupure de courant. D'ailleurs, je peux vous dire, je suis parti du stade, il n'y avait toujours pas de lumière. Hein. Je les voyais au compteur électrique, mais voilà. À noter que Bertrand Desplat, aujourd'hui, a donné une interview au quotidien L'Équipe et a défendu plutôt son entraîneur Antoine Comboiré en disant que Frédéric Hans était un spécialiste de la provocation. Donc, bon. Voilà, c'est vrai que c'est pas très agréable de voir des choses comme ça se passer. Il y a une autre chose pas agréable dont on va parler dans quelques instants, c'est le déplacement du Cop Rouge qui a été annulé, en tout cas du déplacement des supporters guingampais annulé à Angers, et on en saura un petit peu plus avec un des responsables du Cop Rouge juste après les réclames.
Bon, les gars.
Et les filles.
On doit trouver un nouveau nom pour Britways Car. Moins anglophone, plus...
On est en Bretagne, on vend des camping-cars, pourquoi pas Bretagne Camping-Car.
Oh oui, génial, bravo. C'est super.
Britways Car change de nom et devient Bretagne Camping-Car.
Toujours à votre service avec les plus grandes marques à Plumilio, Ifignac, Plou Daniel et Plou Gastel.
Retour du magazine des déchaînés du football, 19h44. Alors que se passe-t-il avec ce déplacement à Angers, Pierre ?
Eh bien, on va le savoir dans un instant avec Mickaël, le trésorier du Cop Rouge. Est-il en ligne avec nous ?
Oui, bonsoir. Mickaël.
Bonsoir. Alors, on veut en savoir plus, forcément, Mickaël, parce qu'on a vu cet arrêté préfectoral qui a été publié, et puis quelques instants plus tard, un communiqué du Cop Rouge disant, eh bien, que vous n'alliez pas faire ce déplacement en solidarité avec les supporters qui n'auraient pas été autorisés à afficher les couleurs guingampaises au stade d'Angers. Expliquez-nous ce qui a amené cette décision dans les rangs du Cop Rouge.
Alors, ça fait déjà un bon mois que bon, on anticipe pas mal les déplacements, donc ça fait un bon mois qu'on se disait Angers, est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas. Il y a des antécédents de violence et de risques de problèmes entre les deux clubs de supporters, entre deux clubs de supporters, on va dire, et qui a entraîné donc cet arrêté là qu'on a découvert sur internet jeudi soir. Et donc du coup, on était prêt à lancer un déplacement. En bus, on était motivés pour y aller, et l'arrêté là, donc c'est un arrêté qui entraîne donc une restriction de déplacement, c'est-à-dire qu'on est autorisé à y aller, mais uniquement en bus. C'est-à-dire que toute personne qui veut y aller avec sa propre voiture, qui habite à Rennes, qui habite à Nantes, qui habite en Grand Ouest, quoi, ne peut pas accéder, donc il y a une restriction au niveau arrêté préfectoral. Donc à partir de là, on s'est dit, par solidarité, puisque le Cop Rouge, c'est 300 membres, c'est un bus ou deux en déplacement à Angers. Pour le reste, qui va remplir le parkage en général ? Parkage visiteur, l'espace visiteur, c'est les gens lambda, les gens qui ont une passion, qui profitent d'habiter juste à côté d'Angers pour pouvoir se déplacer, assister au match de Guingamp. Et là, la sanction est tombée et voilà.
Donc c'est une mesure de solidarité en fait de la part du Cop Rouge envers les gens qui ne sont pas forcément adhérents du Cop Rouge mais qui se déplacent régulièrement dans leur région pour voir Guingamp.
Bien sûr, oui, voilà, sur l'ensemble d'un déplacement comme ça, c'est peut-être 100 du Cop Rouge et le reste 200-300 personnes qui garnissent les rangs du Cop et qui suivent les chants, qui suivent les animations et qui seront privés de ce déplacement. Alors comment décider de se dire « Oh bah oui, on va faire un bus ou deux et on va sélectionner un tel ou un tel ?» Je suis désolé, on ne peut pas... c'est tout ou rien, quoi. C'est la politique du tout ou rien chez nous, quoi.
Et alors, justement, vous en avez parlé, Mickaël, il y a des antécédents entre Guingamp et Angers, et c'est la question qu'on se pose un petit peu de l'extérieur. Comment peut-on en arriver là, d'avoir des restrictions pour un Angers-Guingamp ?
Alors bon, bien sûr, vous savez qu'il y a on a des antécédents avec Brest, avec Rennes, c'est la rivalité historique, et les gens découvrent qu'il y a également eu des problèmes par le passé avec Angers. Alors c'est une rivalité qui date pas du match aller, hein, puisque au match aller il y a eu des incidents quand même derrière la tribune Crédit Mutuel.
Ouais, avec un fumigène, je crois, qui a été tiré de derrière la tribune.
Fumigène, de lancer de la part des supporters en danger, qui étaient quittés, qui auraient pu avoir de graves blessés, notamment avec les grillages et qui ont été secoués, la sécurité qui a été mise à mal aussi, avec tous ces problèmes de supporters angevins qui alcoolisés et qui ont débarqué fou furieux et qui auraient pu toucher toutes les familles qui venaient là tranquillement au match. Et donc bon, ça, il y a eu ces problèmes là au match aller, mais ça fait quelques années où la rivalité monte, alors pas du côté du Cop Rouge, mais voilà, avec d'autres supporters, entre guillemets supporters, qui a posé problème. Et donc ça fait un mois qu'on nous dit que voilà, on va sans doute avoir une interdiction qui va tomber. Finalement, on nous autorise en début de semaine, et finalement le préfectoral est sorti, et donc du coup ça nous contraint à renoncer au déplacement ce samedi. Nous ne sommes pas, voilà, le Cop Rouge n'a pas d'antécédent avec Angers. Vous savez, on a fêté nos 15 ans en 2009 à Angers, un déplacement à Angers. On est arrivé début d'après-midi là-bas. On n'a jamais eu de problème, on n'a pas eu de problème. On s'est posé dans un bar à une cinquantaine, il n'y a pas eu de souci. Et nous, en général, il n'y a pas de souci pour ce déplacement-là. Maintenant, voilà, par solidarité par rapport aux gens, tous les gens qui voulaient faire ce déplacement et supporter Guingamp, pour l'instant, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible.
Alors, Mickaël, dernière question. Cette décision intervient en plein débat sur le monde du supporterisme, les associations de supporters. Certaines, en tout cas, sont en froid avec la Ligue de football professionnelle. Quel est, vous, votre avis? Comment peut-on sortir de cette situation où les interdictions de déplacement se multiplient, où il y a beaucoup de tensions entre les instances et les supporters?
Oui, c'est vrai qu'on est dans un contexte de politique des pouvoirs publics du tout répressif à l'égard des supporters. Les décisions qui sont prises en haut lieu, c'est une solution de facilité pour eux. Parce que, alors, il y a eu l'état d'urgence qui justifiait, entre guillemets, le manque d'effectifs des forces de police. Il y a des antécédents dans le monde du supporter, bien sûr, mais dites-vous bien que voilà, les déplacements peuvent être encadrés, les déplacements peuvent être franchement possible à partir du moment où chacun fait des efforts. Maintenant, c'est la solution de la facilité là. En ce moment, c'est le tout répressif, c'est la solution de facilité pour se dire non, on veut pas gérer les supporters. Maintenant, le supporter a moins de droits que la libre circulation, la liberté d'aller et venir partout en France. Non, le supporter est interdit. Pas partout tout le temps, bien sûr. Mais comment régler ce problème-là? Tout simplement se mettre autour d'une table et discuter. Et ça, l'Association nationale des supporters, l'ANS, qui regroupe pas mal de groupes de supporters en France, tente, veut une discussion avec la Ligue, qui refuse tout, toute discussion, et c'est le tout répressif en ce moment. Et ça, ben voilà, Guingamp n'avait pas été touché, puisque depuis 24 années que le Cop Rouge existe, c'est la première fois que vraiment on est interdit de déplacement, interdit, en tout cas, entre guillemets, une restriction de déplacement. On n'est pas des ultras, on n'est pas des hooligans, on n'est pas, voilà, on n'est pas des crépiers non plus, mais ce qu'il faut se dire, c'est que bah, notre passion, voilà, pour à cause de quelques personnes, bah, on ne peut pas l'exercer totalement. Donc, on a pris la décision de ne pas aller à Angers ce samedi, sauf changement exceptionnel, mais je ne pense pas. Non.
Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, on suivra ça, bien évidemment, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On prendra des nouvelles du Cop Rouge très bientôt, parce qu'il y aura vos 25 ans bientôt pour le Cop
Rouge.
Oui,
sur la saison prochaine. Ouais, ça sera la saison prochaine.
Eh bien voilà, au plus tard, on se donnera rendez-vous la saison prochaine sur Radio Bonheur. Merci beaucoup, Mickaël. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron ?
Alors ?
Eh ben c'est cuit. En ce moment, ils font la pièce de poulet cuit fumé d'environ 1,2 kg à 2,85 € le kilo au lieu de 3,55 €.
Du poulet cuit fumé à 2,85 € le kilo chez Lidl, moins 19%, ça me cloue le bec.
Eh, c'est de la volaille française fumée au bois de hêtre, hein, à déguster froide ou chaude.
Moi j'en connais un qui va vraiment déguster, hein. T'es mal, hein, très mal.
Retrouvez-nous au Salon International de l'Agriculture jusqu'au 4 mars. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,85 € le kilo, offre valable jusqu'au mardi 6 mars, produits transformés en France. Pour votre santé, bougez plus.
Alors, il vient d'où ce Lucas ?
D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire.
Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques.
Le moment Nuxe d'Élise, entrepreneuse. Avec mon rythme de vie, j'ai souvent les traits fatigués. Depuis que j'utilise le soin jeunesse Nuxe et Lancéclat, ma peau est plus lisse, plus lumineuse. Ce que j'aime aussi, c'est son parfum délicat et sa texture soyeuse.
Nuxellence, le meilleur du soin anti-âge au 10 brevet, à la fleur de passiflore et à l'acide hyaluronique d'origine végétale.
Nux, Instinctive Beauty, de l'instinct naît la beauté.
Pour l'achat d'un soin Nuxellence, recevez un coffret de 3 soins essentiels Nux en format découverte, dans la limite des stocks disponibles dans les pharmacies et parapharmacies participantes.
Entretien à faire d'urgence ? Et là, ils sont où les experts Euromaster ?
On est là, monsieur Colin, juste là.
Et pour m'aider à économiser, vous êtes où ?
On est là avec les meilleurs prix Euromaster. Et ça fait 25 ans que ça dure.
Eh oui, vos experts Euromaster sont toujours là pour l'entretien de votre voiture. Et pour l'anniversaire Euromaster, il y a jusqu'à 125 000 € à se partager. En plus, Euromaster vous offre 25 € de remise immédiate sur tout l'entretien.
Euromaster ! Vous êtes entre de bonnes mains.
Jusqu'au 1er avril, jeu avec obligation d'achat. Conditions sur Euromaster.fr.
Vous le savez peut-être pas, mais avec Vert Electric Weekend, la nouvelle offre verte d'EDF, vous pouvez contribuer à la transition climatique tout en payant moins cher votre électricité le week-end. Comment ? Eh bien, EDF s'engage à ce qu'une quantité d'électricité d'origine renouvelable équivalente à votre consommation soit injectée sur le réseau électrique français. Et en plus, c'est moins cher le week-end. Pour en savoir plus, appelez simplement le 3004.
Service et appel gratuit, offre à prix de marché pour les logements équipés d'un compteur communicant. Plus d'informations sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Leclerc.
Juliette, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, la console PS4 avec les jeux Call of Duty, World War 2 et Destiny 2, 299 €.
Tu l'as pris ?
Une petite partie.
Du 27 février au 3 mars, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. La console PS4 500 Go plus les jeux Call of Duty, World War 2 et Destiny 2 est à 299 €, dont 24 centimes d'éco-participation. Voir conditions et magasins participants sur www.culture.leclerc.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
Jeux violents déconseillés aux moins de 18 ans.
Oh, excusez-moi, je me suis trompé d'appartement.
Mais non, chérie, qu'est-ce que tu racontes ? C'est chez nous, reviens.
Ouah, c'est chez nous, ça ? Mais c'est super, t'as refait toute la déco ?
Non, j'ai simplement ajouté 2 nouveaux coussins, une lampe et changé le tapis.
Ah ouais ?
Il suffit parfois d'un rien pour tout changer. Découvrez vite toutes nos nouveautés de printemps à petit prix dans votre magasin IKEA. Avec par exemple le tapis Somar 2018 en 75x200 à 14,95 €.
IKEA !
Radio Bonheur, la radio des footballeurs.
Comme tous les lundis soirs en direct sur Radio Bonheur, rendez-vous avec le magazine des déchaînés du football jusqu'à 20h. C'est déjà presque la fin, on n'a pas vu passer cette émission, on le disait tout de suite hors antenne.
Oui, parce qu'on a chamboulé le conducteur aujourd'hui. On va terminer bien sûr en parlant du foot amateur et on parle du Stade Briochin, alors qui n'a pas joué, mais qui a fait la bonne opération du week-end parce que Le Mans a perdu son match en retard et Saint-Brieuc est donc toujours à 7 points du leader Manceau. Et figurez-vous que le prochain match, c'est Saint-Brieuc-Le Mans à Fred Aubert. Samedi prochain, nous avons un joueur de Saint-Brieuc au téléphone, Florian Carger. Bonsoir, Florian.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes blessé, malheureusement, Florian. Vous ne jouerez pas le match samedi, mais êtes-vous surpris, vous, dans l'équipe, d'être là presque au mois de mars et d'avoir, peut-être pas à portée de main, mais dans un coin de la tête, une éventuelle accession en national?
Bah, étonné, oui, parce que finalement, en début de saison, si on nous avait dit qu'à cette période de l'année, on serait à 7 points du leader et qu'on les recevait dans un match entre presque décisif déjà pour eux, pour qu'ils puissent monter, oui, on aurait signé. Après, surpris maintenant, non, parce qu'au niveau du jeu qu'on produit et par rapport au match qu'on a fait depuis le début de saison, non, parce qu'au final, on se rend compte que notre équipe elle tient la route vis-à-vis des autres équipes, même plus expérimentées dans ce championnat-là.
Comment vous l'abordez ce match déjà? Comment vous avez accueilli le résultat du Mans avec forcément cette idée de les jouer samedi prochain? Parce que, alors, ça peut être un très gros coup pour vous, mais c'est vrai que si le Mans gagne, c'est presque le national pour eux.
C'est un très gros coup. C'est vrai, ouais. Après, faut pas oublier que Romorantin a toujours un match en moins à jouer. Mais non, comment nous on l'aborde? Bah, sereinement, on a pas grand chose à perdre parce que nous c'est notre première année dans cette division là. On est là, tant mieux. Et puis de toute façon, dans notre équipe, on est que des compétiteurs. Ça se voit aussi aux entraînements où des fois la compétition prend le pas sur le fait qu'on soit à l'entraînement. Mais non,
il y a parfois des taquets un petit peu mal placés, Florian.
Voilà, ouais, des fois, ouais, bah, c'est comme ça arrive partout. Hein. On est des compétiteurs, donc ce match-là, on va l'aborder pour le gagner, tout simplement. Maintenant qu'on est là à cette période de l'année, il faut tout faire pour terminer le plus haut possible. Donc le plus haut possible, c'est premier. Là, en l'occurrence, on est deuxième. Maintenant, on va tout faire pour les battre déjà dès samedi, et puis pour voir après ce qui va se passer, quoi.
Avec en plus en tête le match aller qui vous laisse, j'imagine, un goût amer parce que vous avez joué une grande partie du match à 10 contre 11 et vous aviez perdu là-bas par un but d'écart.
Ouais, ouais, mais bon, après, du coup, ça, comment dire, le fait qu'il soit à 10 assez rapidement, ça, on sait pas trop ce que ça aurait pu passer en 11 contre 11 parce que les 20 premières minutes, quand même, on a vachement souffert. Donc voilà, c'est un peu, c'était un match bizarre parce qu'au final on a vu leurs forces, mais on n'a pas vu leurs forces à 11, sachant que c'est un club qui a annoncé ses objectifs dès le début de l'année. On sait tous que le Mans a un passé déjà glorieux et qu'ils veulent le retrouver aussi assez rapidement. Donc, par rapport au match aller, non, c'est pas une revanche, c'est juste que maintenant on va jouer une équipe à 11 contre 11 et puis eux ils sont premiers, nous on est deuxième et on va tout faire pour les battre, quoi, pour leur mettre la pression encore plus que ce qu'on fait déjà actuellement.
Alors Florian Kergé, dernière question, vous êtes là depuis toujours à Saint-Brieuc, vous avez connu la DH notamment avec ce stade briochin, voir le stade Fred Aubert accueillir un match comme ça contre Le Mans avec d'être le premier contre le deuxième de National 2, ça doit être un fantastique, vous devez éprouver une grande émotion quand vous repensez à tout le chemin parcouru.
Oui, c'est sûr, ouais. Bah, on a déjà eu ce phénomène contre Lens en Coupe de France, qu'on a eu la chance de jouer Lens en 16e de finale, même si on a pas eu, on a vu un stade ultra plein, et donc du coup, bah oui, forcément, le fait d'avoir du monde dans les tribunes, ça nous bonifie encore plus que ce qu'on est, ça nous donne envie de nous donner encore plus que ce qu'on peut donner. Donc oui, on a hâte d'y être, et en espérant que le public soit là, et pour faire une grande performance, c'est ce temps-là.
Merci beaucoup Florian Kergé d'avoir été avec nous. Soignez bien votre blessure. On espère que vous allez revenir vite pour la fin de saison. Bonne soirée.
Voilà. Merci, bonne soirée.
Merci.
À bientôt.
Et puis allez le stade briochin, on l'a noté. Il fallait les encourager samedi soir.
18h.
18 ou 19h?
Ah, 18 je crois, non? Ah, bah, écoutez, on va...
Je crois que c'est 19.
On va enquêter, eh bien, je vais vous croire, Dominique.
Je crois que c'est 19h, oui.
Eh bien, de toute façon, on fera une petite rubrique là-dessus, bien sûr, cette semaine pour voir les forces en présence avant ce match. Dernière petite information avant de nous quitter sur Radio Bonheur. Un salut à l'équipe de Plaidel, l'équipe féminine qui a gagné ce week-end en Coupe du département 1-0 contre Uzel Merléac. Bravo aux filles et bravo à la buteuse Morgane Morvan qui a marqué le seul but de cette rencontre. On fera un point complet sur les autres résultats du week-end en Ligue 2, en National, National 2, National 3, demain dans la rubrique à 8h30 et 17h30.
Lorient qui joue en National 2
ce soir.
Ah oui, un match important pour, pour Lorient, si Lorient veut encore espérer dans ce championnat une des trois premières places, enfin la deuxième ou la troisième place, parce que la première elle est prise.
Deux places et demie.
Ouais, elle est prise, cette première place, par Reims. Merci beaucoup Pierre.
Merci à vous.
On se retrouve demain matin à 8h30 pour la rubrique.
Bien sûr, bonne soirée à vous tous.
Bonsoir.